France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Fanny Richer, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Quentin Péchard, Anouk Millot et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Mineta Diawara. Dans un monde où la biodiversité est en danger, certaines espèces d'animaux sont érigées au rang d'emblème d'une nation ou d'une cause. Cette semaine, on s'intéresse aux animaux totems et à ce qu'ils racontent de l'histoire des hommes. Nous avons évoqué hier le panda, devenu ambassadeur des intérêts diplomatiques chinois. Nous nous demanderons demain pourquoi la baleine est devenue le symbole du militantisme écologique. Et jeudi, comment le chat et autres animaux de compagnie se sont fait une nouvelle place dans les foyers. Mais ce matin, le bison, l'animal qui raconte l'Amérique.
Le bison mâle, Tatanka en Sioux, était le symbole de la vie même. L'animal a tout fait du peau rouge, la base vitale de sa culture.
L'identité américaine s'est forgée dans l'Ouest. Quelles sont les caractéristiques principales qui définissent qui nous sommes? Qu'est-ce qui nous distingue du vieux monde? Deux images essentiellement. Deux figures emblématiques du Far West. L'Amérindien et le bison d'Amérique.
La première fois que j'ai vu un bison, je l'ai regardé dans les yeux et c'était comme contempler le passé et l'avenir en même temps. Je suis convaincu qu'ils ont été témoins de toute la tragédie qui s'est déroulée dans les grandes plaines.
Ils avancent dans la tourmente au lieu de fuir devant elle. C'est au pied des Black Hills, dans le Dakota du Sud, que l'écrivain américain Dan O'Brien écrit ses livres et élève ses bisons. Il y défend l'idée d'un modèle de ranch différent où les bêtes paissent librement et sont abattues sur place. Un élevage au plus proche de cette nature du Grand Ouest qui le fascine, mais qui fut aussi le théâtre de plusieurs tragédies. En un peu plus d'un siècle, ce sont des troupeaux entiers, des milliers de bisons qui sont tués par les colons partis à la conquête de l'Ouest. Si ce grand herbivore est prisé pour son cuir et sa viande, son abattage systématique sert aussi à asservir les populations amérindiennes. Sauvé in extremis de l'extinction, le bison est de retour dans les grandes plaines. En 2016, il reçoit le très officiel statut d'emblème national par une loi adoptée au Congrès. Dès lors, comment ne pas y voir l'incarnation des contradictions de l'Amérique? Que révèle le bison? Ont des ambivalences vis-à-vis de cette nature sauvage à la fois idéalisée et exploitée. Que symbolise son retour et sa préservation tant pour les défenseurs de l'environnement que pour les éleveurs et les populations autochtones? Que raconte-t-il de l'histoire des États-Unis? On en discute avec notre invité Thomas Griot. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci. Vous êtes historien chargé de recherche au CNRS à l'Institut d'histoire du temps présent. Vous êtes spécialiste de l'histoire des populations indigènes du Nord-Américaine, et d'histoire environnementale. Votre dernier ouvrage, Après la Grande Guerre, comment les Amérindiens des États-Unis sont devenus patriotes, 1917-1947, était paru aux éditions de l'EHESS. Alors je voudrais, avant qu'on se plonge dans l'histoire, Thomas Griot, essayer de comprendre ce qui s'est joué en 2016, je le mentionnais, une loi adoptée par le Congrès, promulguée par le président de l'époque, Barack Obama, qui fait du bison un emblème officiel des États-Unis. Il y avait déjà l'aigle. Maintenant, il y a aussi le bison. Pourquoi ?
Ben, ce qu'on peut déduire du passage de cette voie, qui a été un passage totalement bipartisan, c'est que le bison, qui à un moment a effectivement été associé aux plaines, donc à une sauvagerie à conquérir, est devenu un animal totalement consensuel. Vous avez des gens, des démocrates du New York, du Missouri, du Nouveau-Mexique, qui peuvent voter ou pousser cette loi en même temps que des gens comme Kristi Noem, des républicains trumpistes, donc en l'occurrence quand elle était représentante du Dakota du Sud. Donc on a un animal qui fait pas débat, comme symbole national en fait, c'est ça qu'il faut comprendre.
Alors, des républicains et des démocrates qui se mettent d'accord pour autour de cet animal qui est érigé en symbole, mais qu'est-ce qui est associé à cette symbolique? Pourquoi on décide de rajouter un animal et quelle vertu on lui prête pour, voilà, pourquoi vient-il compléter une symbolique qui existait déjà, comme je le disais, avec l'aigle américain?
Ah bah, on peut dire déjà qu'il n'est pas, pas menaçant, comme peuvent être d'autres mammifères importants, d'autres mammifères qui, comme lui, vont modeler leur environnement. On peut penser au loup. Le loup est un animal extrêmement problématique dans le débat public. Il y a pas du tout d'accord sur le loup. On se rabat sur un grand herbivore qui paraît pas menaçant, sauf à quelques éleveurs situés en périphérie immédiate de certains parcs, notamment du Yellowstone. Donc là, on a un animal qui ne dérange pas et qui est chargé d'histoire, comme le rappelait l'extrait que vous avez passé, l'associe immédiatement, ça, on va sans doute en reparler, aux Amérindiens. C'est un animal qui a une valeur patrimoniale, une valeur artistique, historique, pardon, qui permet de finalement d'en faire un symbole de l'histoire et des plaines. Et si on associe les plaines à l'identité américaine, comme ça a été fait dans l'extrait aussi, mais on peut en rediscuter également, on a là un très bon symbole national qui fait pas débat.
Aucune autre créature indigène ne raconte mieux l'histoire de l'Amérique que cette noble créature, disait le sénateur républicain William Lacy Clay au moment de l'adoption de cette loi en 2016. Alors justement, à quel moment est-ce qu'on bascule d'un animal qui est pendant longtemps un animal à abattre, qui est abattu, qui a quasiment disparu, à ce symbole de l'histoire et de l'identité américaine? Est-ce qu'on sait situer dans l'histoire cette bascule?
Alors, on peut penser, c'est surtout au 19e siècle que l'animal, finalement, commence à être associé à cet ouest qu'il faut conquérir. On a un point de comparaison intéressant dans les années 1760-1770, quand Buffon va, dans le 9e tome de son Histoire naturelle, critiquer tous les mammifères, y compris les mammifères humains, de l'Amérique du Nord, en les associant à l'idée d'une dégénérescence, d'une absence de capacité à se reproduire, et qui va se heurter à la défense véhémente que va faire Jefferson de la faune de l'Amérique du Nord. Jefferson va pas mobiliser le bison, il va pas dire notre bison est plus gros que le vôtre. Non, il va se tourner vers un autre animal, en l'occurrence l'élan, pour dire, voyez, notre élan est un cervidé beaucoup plus gros que le vôtre, et donc votre théorie est fausse. D'ailleurs, Buffon va reconnaître que sa théorie était fausse. C'est un grand moment de nationalisme états-unien. Le bison est absent de cette controverse. Il aurait pu y figurer. Donc, c'est seulement à partir du 19e siècle quand, en fait, les plaines ne sont plus seulement le domaine réservé des Amérindiens et de quelques marchands de peau français ou espagnol, et que finalement le territoire donc des plaines est racheté à la France, d'abord la Louisiane, et ensuite commence à faire l'objet d'une colonisation en bonne et due forme, ou en bonne et mauvaise forme, si vous voulez.
On estime que 30 à 70 millions de bisons peuplaient les grandes plaines au début du 19e siècle. Ils sont moins de 1000 individus en 1885, et c'est une logique quasiment industrielle qui se met en place.
La révolution industrielle débarquait dans les grandes plaines si majestueuses. Les hommes les transformaient en une gigantesque usine. Sauf qu'au lieu d'assembler des produits, ils les mettaient en pièces. Ils dépeçaient les animaux pour n'en prendre qu'une certaine partie et laissaient le reste sur place. Et le tapis convoyeur, c'était les trains qui récupéraient ces peaux pour alimenter les machines de la côte Est. C'était une usine, et les chasseurs de bisons, quel que soit l'angle sous lequel on veut bien les regarder, c'étaient les ouvriers de cette usine. Une usine à la régularité de métronome. Implacable. Parfaitement implacable.
Extrait du documentaire « Bison, une histoire de l'Amérique » de Ken Burns qui est sorti en 2023. On y entendait le scénariste Dayton Duncan parler d'usine. Est-ce que cette image de l'usine, de l'ouvrier, cette métaphore de l'industrie vous paraît juste, Thomas Griot, pour parler de la façon dont les bisons sont systématiquement tués à mesure qu'avance la conquête de l'Ouest et notamment le chemin de fer?
Alors, elle correspond essentiellement à la dernière phase de ce qu'on a appelé la conquête. Donc, à partir des années 70, on va trouver un procédé de tannage des peaux de bison qui va permettre de les utiliser justement dans des processus industriels, donc pour servir de courroie. Mais en fait, il y a une histoire qui précède ce moment-là. Et c'est plus compliqué que ça. C'est pas l'industrie européenne ou américaine qui a décimé le bison. C'est un processus plus long qui démarre au début du 19e siècle, et qui va voir, par contre, plusieurs inventions jouer un rôle. Le fusil à répétition, les bateaux à vapeur aussi, qui vont remonter le Missouri, et qui donc, à partir des années 1840, vont permettre de massifier le commerce des peaux, qui sont en fait des peaux qui sont pas du tout utilisées pour l'industrie à l'époque. C'est des peaux qui servent essentiellement le vêtement, qui servent à se protéger les jambes quand on conduit sa carriole ou quand on est dans ses traîneaux. On utilise vraiment la peau avec les poils de l'animal. Et ça commence à se massifier à ce moment-là. Et ce qui va occasionner l'effondrement des populations, c'est une combinaison de facteurs, une surchasse, motivé par une demande qui est effectivement américaine et européenne, la fin du petit âge glaciaire qui voit une plus grande sécheresse arriver dans les plaines et qui fait qu'il y a tout simplement moins d'herbe et donc moins de nourriture pour les bisons. Et des programmes de chasse en partie contrôlés par l'armée américaine, mais sans un but qui soit explicitement un but de massacrer toute la population de bisons, même si ici et là on entend des voix qui disent que se débarrasser du bison, c'est faire d'une pierre deux coups et se débarrasser en même temps des Amérindiens.
C'est ce que j'allais justement vous demander. On sait à l'époque que le bison représente une ressource vitale pour les tribus amérindiennes. Et donc, est-ce que le fait d'exterminer les troupeaux, c'est une façon aussi de soumettre, voire d'éliminer les tribus dans ce contexte de la conquête? Est-ce que c'est une conséquence ou est-ce que c'est une politique délibérée?
On pense que donc dans ces années 1840, pour leur consommation propre, les Amérindiens consommaient 500 000 têtes de bison par an. On pense aussi qu'ils en ont consommé 100 000 de plus pour satisfaire à la demande qui leur était faite de la part du commerce, de l'industrie, encore une fois, euro-américaine. Donc, ils sont partie prenante de ce processus-là. On ne peut pas les en exclure et dire qu'ils n'ont pas été acteurs de cette disparition-là. Mais il y a une énorme accélération avec l'arrivée des Euro-Américains. Et encore une fois, dans le dernier tiers du 19e siècle, quand la colonisation devient une réalité, quand il y a des chemins de fer, quand il y a des colons qui arrivent, là, on a un vrai effondrement. Et plus que de politique d'extermination, il faut parler d'une sorte de fatalisme de la part, fatalisme intéressé de la part des Américains, des États-Unis, qui considèrent que le bison a fait son temps et que c'est finalement assez normal qu'il disparaisse. Et ils ont conscience d'accélérer, ils ont conscience de faire disparaître cet univers-là, comme ils ont conscience de faire disparaître le mode de vie amérindien qui est associé. Mais c'est une fatalité, de la même manière que la race anglo-saxonne doit prendre le pas sur la race amérindienne, puisque ce sont les termes qui sont employés. Eh bien, le bison doit céder la place au bétail. Au bétail et également aux chevaux, mais les chevaux ont évidemment été plus qu'acclimatés par les Amérindiens auparavant. Donc on peut presque en parler d'une espèce native pour les chevaux. Enfin, on peut en discuter.
Dans ce processus multifacteur que vous décrivez, il y a quelques figures qui émergent et qui vont marquer les esprits. Je pense par exemple au chasseur Buffalo Bill, 1846-1917, qui a organisé des campagnes records de chasse au bison, où l'objectif était de tuer le plus de bisons par jour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que signifiaient ces moments-là et comment ils ont marqué les esprits, comment ils ont marqué aussi l'héritage historique des Américains ?
En fait, on a principalement chassé le bison pour deux choses. La viande et la peau qu'on traitait plus ou moins de manière plus ou moins approfondie, je vous l'ai dit, et qui pouvait finir par participer à des processus industriels. Ce que fait Buffalo Bill, c'est quelque chose qui s'est fait depuis très longtemps, c'est de chasser pour manger la viande et donc pour approvisionner les chantiers d'ouvriers de chemin de fer. Donc c'est un usage utilitariste, c'est pas le massacre pour le massacre, il n'empêche, il y a une volonté d'atteindre des records, et donc il serait responsable, à titre personnel, de la mort de 4000 bisons. Donc voilà, il y a des
sur toute sa carrière.
Une compétition sur toute sa carrière. En tout cas, sa carrière qui a fait l'objet d'un compte, parce que là, encore une fois, on est un peu dans le vague. Mais donc, c'est pour nourrir les ouvriers des chantiers, et il y a une compétition entre chasseurs. Donc tout ça, c'est une logique à part entière, une logique de compétition entre chasseurs blancs. Il faut en tuer le maximum.
Et vous disiez il y a un usage utilitariste, on va récupérer les peaux, on va récupérer la viande, mais quand on est sur des chiffres comme ceux-ci, on a aussi l'image en tête des carcasses de bisons, desquelles on a peut-être à peine prélevé la langue, apparemment qui était très prisée. Mais voilà, ces carcasses qui jonchent les grandes plaines américaines et qui sont laissées aux charognards, qui ne sont peut-être même pas assez nombreux pour les éliminer. Donc, encore une fois, puisqu'on convoque les images ce matin... Ces charniers à ciel ouvert de bisons, c'est aussi une réalité historique.
C'est une réalité historique et là, encore une fois, les Amérindiens sont partie prenante de cette histoire. Dans chez un certain nombre de peuples amérindiens, la langue est un élément particulièrement prisé du bison. Et il arrive, il y a un certain nombre de traces dans les archives de massacres de bisons qui sont laissés, dont la carcasse est laissée à l'abandon, dont les Amérindiens eux-mêmes n'ont prélevé que la langue, pour en faire le commerce, pour leur consommation. Mais en tout cas, c'est une pratique qui est attestée. Donc c'est aussi lié au fait que pour pouvoir transformer la viande, pour pouvoir la conserver, font un travail très intensif, qui était d'ailleurs la charge des femmes amérindiennes. Il faut dire aussi que toute cette histoire est une histoire de division du travail très claire. Les peaux et les viandes sont travaillées par les femmes, souvent sur place, sur le lieu de la chasse. C'est extrêmement intensif comme travail. Et il n'y a pas que les chasseurs, il y a aussi derrière ce traitement-là, cette préparation-là. Et longtemps, on a vendu la viande, avant de la vendre aux ouvriers des chantiers, on l'a vendue aux trappeurs, aux marchands de pelleterie des compagnies euro-américaines, sous la forme de pemmican, donc de viande séchée et mêlée à des fruits séchés, qui était une forme de nourriture extrêmement énergétique qui permettait de vivre ces longs voyages à travers les plaines.
Alors, fin du 19e siècle, tout début du 20e, on commence à prendre conscience que le bison est en voie de disparition. Vous le disiez, certains sont dans une optique fataliste, ils le voient et ils l'acceptent. Et puis d'autres s'insurgent de cette réalité. En 1894, une première loi fédérale tente d'interdire la chasse au bison. Est-ce que cette interdiction est respectée ? Est-ce que c'est le début d'un sursaut ?
J'ai pas entendu la date, excusez-moi.
1894, première loi fédérale pour l'interdiction de la chasse.
Effectivement. Theodore Roosevelt, futur président des États-Unis, s'avise que l'Ouest est en train de disparaître. Au début des années 80, il va aller dans le Dakota du Nord pour essayer d'en profiter avant que ça disparaisse. Il s'aperçoit là bien, il constate bien que l'espèce est en train de disparaître. Et encore une fois, l'idée, c'est que comme les Indiens disparaissent, parce qu'on pense que comme race ils vont disparaître, les bisons disparaissent. Il essaye d'en chasser au dernier moment avant qu'il y ait plus d'exemplaires de cette espèce-là. Et encore une fois, c'est perçu comme une fatalité. Et en même temps, on va avoir un mouvement qui va partir notamment du travail de William Hornaday, le fondateur de l'association nationale du bison, un taxidermiste en fait, qui travaille pour la Smithsonian, qui travaille pour les collections animales de la Smithsonian, qui va regarder ses collections, voir qu'il n'a pas d'exemplaires de bison, qui va aller chercher à en avoir et qui va du coup rapatrier des bisons, quelques-uns des survivants, dans ce qui va devenir le zoo du Bronx. Et là, va se demander si par hasard on peut pas sauver l'espèce. Et en fait, le zoo du Bronx et la mobilisation de Hornaday, de Theodore Roosevelt, de cette société américaine du bison, vont permettre que soient créées 3 réserves dans le Montana, le Dakota du Sud et l'Oklahoma, dans lesquelles on va permettre à des troupeaux de bisons de se reconstituer. Donc on a déjà dès ce moment-là une logique de réintroduction. On va chercher des bisons à des endroits, y compris dans des zoos où on les a sauvés. On les retransplante. Et c'est à partir de ces territoires originels et aussi d'autres endroits où quelques petits troupeaux ont pu survivre, notamment au Yellowstone, qu'on va essayer de relancer l'espèce au cours du XXe siècle.
Au Sénat et à la Chambre des représentants, je souhaite insister sur l'importance d'autoriser la présidence à instituer certaines portions des forêts nationales en tant que réserves animales pour la protection du bison. Nous devons aux générations futures de préserver ces superbes et nobles créatures qui, par leur présence, ajoutent une touche si caractéristique à nos espaces naturels.
C'est un extrait d'une lecture du discours de Theodore Roosevelt au Sénat et à la Chambre des représentants en 1904. Theodore Roosevelt va avoir un rôle assez important dans l'arrêt de la disparition des bisons. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà là, dans ce discours précisément, les ambivalences du rapport aux bisons, puisque on l'entend parler de générations futures. Et en même temps, vous le disiez, s'il a voulu préserver le bison, c'était aussi pour préserver un plaisir de chasse.
Si ambivalence il y a, c'est dans le fait de vouloir faire survivre une espèce qui, en fond, était associée à l'idée d'espace extrêmement ouvert, d'horizons infinis et libres, dans lesquels il n'y avait pas de propriété privée. Et donc, là où il y a contradiction, c'est que finalement, on va refaire prospérer cette espèce dans un cadre totalement différent, un cadre dans lequel les plaines ont été appropriées par des colons, divisées en lots, et où finalement la propriété privée va jouer un rôle extrêmement important, surtout à partir des années 70, donc pas encore sous Theodore Roosevelt. Sous Theodore Roosevelt, c'est bien l'État fédéral qui prend la main, qui montre le chemin, mais finalement que pour une... Il le dit très bien, pour faire survivre un petit quelque chose de cet Ouest qui a disparu. C'est un parfum du passé et rien de plus.
C'est-à-dire qu'il y a une dimension nostalgique dans cette politique, déjà à ce moment-là, au début du XXe siècle.
C'est explicite de la part de Roosevelt. Effectivement.
Dans un article intitulé « La diplomatie du bison » paru dans la revue Silence en 2022, Thomas Griot, vous parliez de préserver un Ouest idéalisé. C'est intéressant d'essayer de comprendre comment, au début du XXe siècle, on idéalise l'Ouest du XIXe siècle. Comment les choses sont-elles posées? Dans quels termes à ce moment-là?
On l'a idéalisé avant même sa disparition. Dans les années 1840, un peintre, le peintre George Catlin, visite les plaines, fait des tableaux qui notamment représente la chasse au bison et qui ont un grand succès quand il vient montrer ses tableaux dans l'Est américain, donc sur la côte Est et aussi en Europe. Et dès ce moment-là, il va proposer de transformer le centre de ce qui va devenir les États-Unis, mais le centre du continent, donc, et les plaines, en une sorte de gigantesque réserve dans lequel il y aurait eu des Amérindiens qui auraient continué à mener leur mode de vie dans une sorte de zoo humain géant. Et on a cette nostalgie, cette idée que tout ça va disparaître, qu'il faut en préserver un petit peu dès ce moment-là, donc vraiment avant même ce qu'on a appelé les guerres indiennes finalement. Donc c'est un imaginaire nostalgique qui apparaît en fait au XVIIIe siècle et qui est tout prêt à servir. Il a déjà servi dans l'Est des États-Unis, il va resservir dans l'Ouest et il est remobilisé par Theodore Roosevelt qui n'est pas son inventeur.
Vous le disiez donc, des premières zones protectrices, des parcs naturels sont mis en place. Dans l'Oklahoma, dans le Wyoming, il y a le célèbre parc de Yellowstone, où vivent aujourd'hui des bisons. Comment ça se passe concrètement? Qui est-ce qui gère les bisons dans ces espaces? Est-ce qu'ils sont laissés à l'état sauvage, entre guillemets? Et si oui, quelle est la définition du terme sauvage dans ce contexte-là? Voilà, et surtout, qui les gère?
Eh bien oui, vous avez dit le mot, c'est gérer. Ils sont gérés malgré tout, même si ce sont des troupeaux qui sont censés être laissés à eux-mêmes, en réalité ils sont perpétuellement surveillés pour une raison très simple, c'est que les éleveurs qui se trouvent aux alentours de la réserve ont peur des maladies qui peuvent être éventuellement apportées par ces bisons. Alors, le paradoxe, l'ironie, c'est qu'en fait, c'est d'abord le bétail qui a apporté ces maladies, donc en l'occurrence la brucellose, qui s'est transmis aux bisons. Depuis, la maladie a été éradiquée dans le bétail domestique. Elle a survécu dans certaines poches donc de la population de bisons. Et donc, les éleveurs ont très peur d'une recontamination. En réalité, la situation est plus compliquée. Ça peut venir d'autres animaux sauvages, notamment les cerfs. Mais passons. Tout ça oblige les fédéral qui détient ses réserves à contrôler ces bisons, à empêcher les sorties et éventuellement à abattre des animaux qui vont être testés pour savoir s'ils ont ou pas la maladie. Donc il y a des campagnes régulières d'abattage d'animaux qui sont censés être donc porter la maladie. Donc voilà, ce sont des troupeaux laissés à eux-mêmes et en même temps vraiment très très surveillés.
Est-ce que les tribus amérindiennes sont associées à ces premières mesures de conservation dans les parcs et comment cela a évolué ensuite qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui?
En fait, il faut là aussi répondre en plusieurs temps, c'est-à-dire qu'à l'origine, les parcs nationaux, les monuments nationaux, toutes les formes de réserves centrées sur la nature sont créées avec l'idée d'en faire sortir les êtres humains, quels que soient ces êtres humains, que ce soit des braconniers, des chasseurs euro-américains ou des usagers, en fait, des gens qui vont utiliser les ressources naturelles de l'endroit et qui peuvent être amérindiens. Donc c'est l'exclusion d'abord et c'est une politique qui va durer un demi-siècle entre la fin du 19e à peu près le milieu des années 40. Et puis à partir des années 70, eh bien, les tribus vont se faire entendre, vont demander à co-gérer ces espaces-là, à bénéficier ils peuvent pour ça se prévaloir des traités qu'ils ont signés avec les États-Unis, se bénéficier de droits particuliers d'utilisation de cueillettes de chasse, et donc on prélever des bisons occasionnellement. Et puis ils vont aussi créer, les tribus indiennes vont aussi créer leurs propres troupeaux nationaux, si on peut dire, à partir d'individus prélevés sur les troupeaux fédéraux.
Mais comment le bison, quelle place le bison a-t-il aujourd'hui dans le mode de vie, dans la culture amérindienne, si tant est qu'on puisse le réduire au pluriel, mais juste pour comprendre comment on est passé d'un fonctionnement où le bison était un animal lié à la survie et on pouvait exploiter tout de la peau à l'os, à la viande. Aujourd'hui, quelles sont les pratiques associées à la chasse? Est-ce que c'est une chasse rituelle? Est-ce qu'on tente aussi de revitaliser des anciennes pratiques au sein des tribus amérindienne?
À la fin du 19e, quand les Amérindiens sont forcés de vivre dans les réserves, qu'ils obtiennent en échange de leur acquiescence des rations, ils obtiennent d'abord ces rations sous la forme de bétail, le bétail sur pied, vivant, et vont essayer de maintenir une partie de leur tradition de chasse en faisant un petit peu semblant de chasser ce bétail quand il leur est livré. Donc on lui court après, on le tue et on essaie de le consommer de la même manière qu'on consommait le bison. Ça va durer un certain temps. Il y a une énorme nostalgie.
Pourquoi cette mise en scène ?
Justement pour pouvoir conserver un petit peu les émotions qui étaient associées à la chasse. Parce que c'est, y a tout un mode de vie qui disparaît. Les Amérindiens ne se font pas faute de rappeler aux Indiens que c'est fini. Donc on insiste bien lourdement, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Les Amérindiens choisissent d'essayer de lutter contre ce sentiment-là de dépression. Il faut vraiment parler ça, la disparition du bison, c'est un état dépressif, ça participe d'un état dépressif dans tout un tas de populations amérindiennes. Et évidemment, aujourd'hui, on est passé à d'autres modes de consommation. La viande de choix, c'est la viande de bétail. La viande par excellence, c'est la viande de hamburger. Mais du coup, le bison va correspondre, la consommation de bison va correspondre à un domaine très particulier. Et le mot qui va automatiquement être associé, c'est l'idée de sacré. On est dans une consommation qui relèverait du sacré, notamment parce que elle est associée à des rituels liés au bison et que on peut y en faire le centre d'une forme de revitalisation d'une partie des cultures amérindiennes de ces régions-là, parce qu'il faut dire que tous les Amérindiens n'étaient pas, la vie de tous les Amérindiens n'était pas centrée sur le bison. C'est aussi un paradoxe de son succès, c'est que maintenant il est très difficile pour un Amérindien d'imaginer que le passé de ses ancêtres sans bison. En réalité, il y a plein de tribus qui ne consommaient pas, ne chassaient pas le bison. Mais donc, c'est devenu le centre de une revitalisation de danse, de chant, de rituel. Ça s'est spécialisé finalement. Ce n'est plus un frigo, ce n'est plus l'animal qui permet de se nourrir et de faire tout un tas de choses avec. C'est une espèce d'espèce qui est uniquement qui est abordée de manière double en fait, sous l'angle de la sacralité ou éventuellement d'une commercialisation, puisque le grand élément important de la croissance des populations de bisons à partir des années 70-80, surtout 90, c'est que il va majoritairement être élevé dans un cadre public, mais surtout privé, avec donc un très très fort élevage privé par des non-indiens. On peut penser à la figure de Ted Turner, fondateur de CNN, qui va acheter des ranches dans le Nouveau-Mexique, qui va importer des bisons du Montana, et qui va toujours être très, très clair sur le fait qu'il veut à la fois sauver l'espèce et en même temps en tirer un bénéfice, la commercialiser.
Cette figure de milliardaire Ted Turner que vous évoquez est intéressante. C'est vous le disiez, un éleveur qui, dans les années 70, se lance dans la production de viande de bison qui est vantée comme plus saine. Je crois qu'elle est incorporée dans des barres énergétiques. Il y a tout un marketing de la viande de bison qui se met en place. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de sauvetage par le marché, par le capitalisme qui se met en place?
Dans le cas de Ted Turner, c'est très explicite. L'idée, c'est qu'on n'est pas obligé de renoncer à des pratiques capitalistiques pour réintroduire une espèce, pour la sauver. Et donc, ça a été fait de manière très, très consciente, comme ça. Se sont rajoutées aussi, après, des logiques de distinction, on peut dire, et puis de tentative de trouver une niche pour certains éleveurs qui pouvaient être en perte de vitesse, qui choisissent de se tourner vers une espèce qui est plus rare, plus sélecte, qui va plus leur permettre de se distinguer de leurs concurrents. Ils vont essayer de créer aussi des partenariats avec des restaurateurs, si possible avec des chefs d'origine amérindienne. Donc on va essayer de créer une filière complète qui va mener de l'élevage à l'abattage, au conditionnement et encore une fois au marketing, à la consommation, etc. Donc on a une filière du bison qui se met en place dans les années 90 et 2000.
Et ça veut dire que le bison, qui donc là est un animal d'élevage, y est traité de la même manière que sont traités les bœufs aux États-Unis.
Alors on peut pas le traiter, il est pas aussi facile à traiter que le bétail normal, dira-t-on. Donc non, il n'y a pas le même type de management, mais il y en a quand même un. Et il faut quand même vérifier, encore une fois, qu'il n'y a pas d'hybridation avec des espèces de bovins. Donc ça, on est très surveillé. Donc on fait beaucoup de tests ADN pour vérifier que c'est pas le cas. On vérifie aussi que les maladies se transmettent pas. On a un vrai management de l'espèce. Et encore une fois, là, c'est pour des raisons commerciales.
Vous parliez tout à l'heure du rapport sacré au bison chez les populations amérindiennes. Et c'est quelque chose qui a été notamment fixé dans les imaginaires par Hollywood.
Qui avait été capable d'une chose pareille? Le spectacle de désolation suffisait à prouver que c'était des gens sans âme, sans aucun égard pour les droits des Sioux. Les traces de chariots ne permettaient pas le doute. Le cœur navré, je compris qu'il ne pouvait s'agir que de chasseurs blancs. Les voix joyeuses qui avaient résonné toute la matinée se turent devant les carcasses abandonnées à pourrir dans la vallée. Les bisons avaient été massacrés pour leur langue et leur peau, rien d'autre.
C'est une scène où le lieutenant Dunbar, incarné par Kevin Costner, et des Sioux découvrent dans une prairie de nombreuses carcasses de bisons laissées à l'abandon, extrait bien sûr de Danse avec les loups, le film sorti en 1990 de et avec Kevin Costner. Vous nous disiez, Thomas Griot, en préparant cette émission, qu'il s'agissait d'une des scènes de film qui est la plus proche de ce qu'a pu être la réalité historique et que c'était une réalité qui était difficile à représenter. fidèlement dans le cinéma. Pourquoi ?
Pour être plus exact, j'ai dit que c'était un type de scène qui est considéré par beaucoup de gens, y compris par un certain nombre d'Amérindiens, comme étant ce qui se rapproche le mieux de ce qu'a pu être, ce qu'avait pu être la chasse au bison. Ce qui est intéressant, c'est que derrière le film, vous avez le tournage du film et que le lieu de tournage, c'est une propriété privée. C'est un ranch d'élevage de bison. Donc, on ressuscite ce passé, encore une fois, ce passé de liberté en imaginant, mais ça, c'est le cadrage qui fait ça, des espaces infinis. En réalité, c'est une zone où il y a des barrières et donc les bisons ne peuvent pas aller n'importe où, n'importe comment, même si c'est quand même des ranchs particulièrement grands. On a un peu un résumé de la complexité du retour de l'espèce sur la scène publique, sur la scène dans les imaginaires, donc dans les années 90, avec ce film et avec ces scènes particulières de chasse aux bisons.
En 2014, plusieurs tribus indiennes ont signé un traité d'amitié entre elles et avec le bison. Alors, je voudrais justement essayer qu'on comprenne ce que ça veut dire que de signer un traité d'amitié, y compris avec l'espèce. C'est ce que vous détaillez dans un article. Mais comment est-ce qu'on associe le bison à sa propre politique de gestion et de conservation ?
Alors, par exemple, chez les Lakota, l'espèce est traitée comme un peuple. Donc il y a le peuple des loups, le peuple des chevaux et le peuple des bisons. Donc l'idée de faire alliance avec un peuple, elle n'est pas du tout absurde dans cette manière-là de penser. Dans ce qui se passe donc dans les années 2000, c'est que vous avez une sorte de leadership d'une nation en particulier, qui est la nation Blackfeet, qui a la particularité d'être présente aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Donc qui est particulièrement adaptée aussi, en plus d'être historiquement une nation qui utilisait les bisons, particulièrement adaptée pour servir de nation diplomate. Elle est à cheval entre les États-Unis et le Canada et elle va servir, il y a un certain nombre d'activistes dans cette nation qui vont servir d'intermédiaires pour faire travailler ensemble un certain nombre de nations amérindiennes. Et depuis les années 70, depuis le mouvement qu'on a appelé le Red Power, l'idée de faire des traités d'amitié entre populations amérindiennes en ignorant un peu ostensiblement les pouvoirs nationaux, fédéraux, états-uniens et canadiens, est assez répandu. Donc, c'est pas une nouveauté. Ce qui est une nouveauté, vous le soulignez, c'est qu'on inclut une espèce dedans. Mais encore une fois, le bison, à ce stade-là, est devenu totalement évident comme espèce qui permet de faire ce genre de choses. Encore une fois, on aurait pu choisir le loup. Le loup est extrêmement important dans un tas de rituels et tout un tas de, et même l'imaginaire amérindien à travers les plaines du Mexique jusqu'au Canada. On a ce type de traité n'a pas été signé pour le loup.
Et concrètement, une fois ce traité signé, établi avec les populations de bisons incluses, comment est-ce que ça se décline concrètement ? Est-ce qu'on établit des quotas de chasse ou de prélèvement ? Est-ce que ça se décline sous forme de rituel, de respect ? Voilà, comment cette amitié se décline concrètement ?
L'idée, c'est, je crois, plutôt de former une sorte de groupe de pression qui a la capacité d'imposer aussi ses normes, ses manières de faire dans un univers qui, encore une fois, n'est pas majoritairement dominé par ce qu'on pourrait appeler des troupeaux publics. Il y a près de 200 000 bisons qui sont sur des terres privées aux États-Unis, près de 150 000 au Canada. Dans les terres tribales, vous n'en avez que 30 000. Donc, il s'agit de s'unir pour pouvoir essayer de peser sur les politiques qui vont être créées pour gérer l'espace.
Que ce soit de la part des Amérindiens ou des dirigeants locaux, nationaux aux États-Unis. On voit parfois, en lisant les articles et la littérature associée à la réintroduction du bison, apparaître le mot réconciliation par rapport à l'histoire tragique qu'on a développée ensemble, Thomas Griot. Est-ce que ce mot-là signifie quelque chose, vaut quelque chose ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui l'idée de, à travers la préservation de l'espèce, réparer une histoire particulièrement douloureuse.
Cette espèce-là et d'autres espèces. L'idée qui est très présente dans tout un tas de politiques de réintroduction, c'est effectivement de revenir à une période antéco avec l'idée d'essayer d'effacer, si possible, les traces des traumas du passé. Et là, l'association qui est faite entre les populations humaines et les populations animales est particulièrement importante. On part du principe, qui peut être contesté, mais c'est comme ça que ça se fait, que finalement, les mots que qu'on subit l'espèce humaine native, indigène, et les espèces animales également natives, sont identiques. Que finalement, la colonisation aurait imposé les mêmes problèmes. On peut contester ça. Hein. Pour les Amérindiens, le problème essentiel, c'était les maladies importées par les Euro-Américains.
Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim, Buffalo Jim, there's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette, and there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, our Rosalie to roam with the Buffalo.
Les bisons disaient autrefois, sois fier de ton nom. Les bisons disaient autrefois, sois ce que tu es. Les bisons disaient autrefois, erre là où tu erres. Extrait des paroles de la chanson Jimmy du groupe Moriarty. Vous écoutez Culture Monde, c'est le deuxième épisode de notre série sur les animaux totems. On parle aujourd'hui du bison, emblème d'une faune sauvage sauvée de justesse. Direction à présent la Pologne.
France Culture. Culture Monde, Mélanie Chalandon.
C'est le plus grand mammifère terrestre en Europe. Un bison mâle peut peser jusqu'à 840 kg. Dans le passé, quand ils sortaient de la forêt dans les clairières, ils étaient poursuivis, déplacés, souvent abattus. Donc on a de la chance de pouvoir les voir aujourd'hui.
C'est une chance de les apercevoir le matin dans la brume, confiait ce professeur de l'Académie des sciences de Pologne à une équipe de France Télévisions. Les bisons de Białowieża, dernière forêt primaire d'Europe, située à la frontière avec la Biélorussie, ne sont plus très nombreux. Après avoir été intensément chassés, ils furent réintroduits au début du XXe siècle. 1600 individus environ y vivent aujourd'hui, c'est une estimation. Et la fascination qu'ils suscitent est encore bien vivante. Bonjour Jawad Daher.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes historien chargé de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire environnementale en Europe centrale. Vous avez travaillé notamment sur l'usage identitaire du bison en Allemagne, en Pologne et dans l'enclave russe de Kaliningrad. Et c'est au 19e siècle, Jawad Daher, que la fascination pour le bison est particulièrement forte. De quoi cet animal est-il le symbole à ce moment-là? Quelles sont les vertus qu'on lui associe?
Oui, mais merci pour cette invitation qui permet de compléter un petit peu le panorama sur le bison en évoquant ce cousin européen. Alors, on est sur des caractéristiques un petit peu différentes du bison américain que vous venez d'évoquer avec votre précédent invité. On est notamment sur le plan environnemental dans un contexte un peu différent. Donc, c'était une espèce... bison bonassus, déjà une espèce autre, différente de celle du bison américain, qui est plutôt liée au contexte forestier. Donc là, on n'est pas dans les grandes plaines de l'Ouest américain, mais plutôt dans la forêt. Et c'est la forêt qui va donner Au bison européen, ce caractère de sauvagerie qui va faire son succès iconique, en particulier au XIXe siècle et déjà bien avant. Un animal, donc c'était dit dans l'extrait, hein, le plus gros mammifère terrestre d'Europe, qui va un peu pallier au manque de grand gibier dont souffrent les Européens au XIXe siècle, dans un contexte où on s'intéresse beaucoup aux animaux africains. Va incarner un symbole d'énergie brute, de sauvagerie.
Oui, pardon de vous couper. Ce que vous évoquez est très intéressant. Si on se remet dans le contexte, vous dites dans une époque où les Européens, à mesure que la colonisation, notamment du continent africain, avance, prennent conscience de la rareté chez eux en Europe du grand gibier.
Oui, et c'est lié au caractère relictuel de cette espèce, puisque son sort a été très lié en fait à l'histoire des forêts dans le continent européen. Au XIXe siècle, on n'en trouve plus que dans de très rares endroits, notamment la forêt de Biot-Viejo, que vous venez d'évoquer, qui est un petit peu leur dernier refuge. Donc ça donne à cette espèce du bison européen le caractère d'un animal relique, une sorte de survivance des temps anciens, des temps préhistoriques. Il était à peu près répandu sur tout le continent européen, des Pyrénées à l'Oural, autour de 10 000 à 15 000 ans. Avant notre époque, et puis progressivement, sous les coups de boutoir de la progression de l'agriculture, il s'est raréfié. Donc il y a en effet un contexte de raréfaction et de petits nombres qui contraste avec la présence du bison américain encore très marqué, au XVIIIe siècle et encore au début du XIXe siècle.
Le bison en Europe au début du XIXe siècle est associé aussi aux pratiques de chasse, mais c'est une chasse qui est très élitiste et qui est réservée à une certaine aristocratie, Jawader.
Oui, exactement, et ça c'est une autre différence qu'on peut noter, c'est que le contact quotidien des populations avec le bison d'Europe a été beaucoup plus réduit, notamment dans le contexte polonais, suite à l'émergence du caractère élitaire de la chasse au bison, qui était vraiment une chasse princière et royale. Donc ça renvoie notamment aux époques des rapprochements de l'alliance entre la Pologne et la Lituanie, fin du XIVe siècle, puisque cette forêt de Biot-Viejo faisait historiquement partie du Grand-Duché de Lituanie, dont les dignitaires, les élites princières royales avaient coutume de pratiquer la chasse au bison, notamment comme une sorte d'entraînement martial, d'entraînement au courage, une confrontation avec une bête indomptable. Donc notamment, on évoque le cas du roi Władysław Jagiełło, qui se prépare à la fameuse bataille de Grunwald de 1410 contre les Teutoniques, en allant chasser le bison à Biot-Viejo.
Jawad, d'ailleurs, la liaison téléphonique s'est soudainement détériorée. Peut-être avez-vous changé physiquement d'endroit ou avez-vous perdu quelques ondes. Si vous pouvez peut-être essayer on va essayer de corriger ça aussi chez nous en interne et poursuivre cet entretien. Vous avez travaillé, Jawad, d'ailleurs, sur l'érection de monuments, notamment des statues animalières en Pologne. Il y a une statue célèbre de bison qui a été érigée à la fin du XIXe siècle suite à une mémorable journée de chasse dans la forêt de Biot-Viejo. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette statue?
Oui, alors on se situe dans une sorte de la statuomanie du XIXe siècle. On va voir vraiment la multiplication des statues dans l'espace public. Et notamment, suite à, comme vous l'évoquiez, une grande chasse du tsar Alexandre II dans la forêt de Biot-Viejo en 1860, on va ériger un monument du bison, grandeur nature, en 1862, avec une dédicace au tsar. Depuis 1795, la forêt est passée sous le contrôle de l'Empire de Russie. Et je ne sais pas si on m'entend toujours correctement.
Allez-y.
Oui, et cette statue va avoir un sort assez intéressant qui reflète aussi les velléités d'instrumentalisation de la symbolique animalière à l'ère des nationalismes. En 1915, au moment de l'avancée des troupes allemandes dans ces territoires, la statue va déplacer à Moscou par les Russes qui veulent la protéger. Dans les années 20, les Polonais la réclament au titre de la restitution des biens culturels spoliés pendant la guerre. Donc elle revient à Varsovie.
Et elle est aujourd'hui à Spala,
après un temps passé dans le...
en Pologne,
oui, exactement,
centrale.
Spawa, donc... La résidence d'été des présidents polonais. Donc ça, c'est lié à la personnalité de Ignacy Mociski, qui était président dans les années 20, un grand chasseur lui-même et qui a voulu l'établir à cet endroit.
Et on voit à quel point le nationalisme est associé à cette figure du bison, puisque vous l'expliquez dans vos travaux, dès le 19e siècle, on est à la recherche d'animaux prestigieux, et pas seulement en Pologne, pour incarner une identité, un sentiment national. Et puis progressivement, l'image du bison va être plus associée à des combats écologiques. Il y a plusieurs tournants, mais voilà, comment est-ce que progressivement le bison devient aussi une figure d'une faune à préserver?
Oui, on prend rapidement conscience de la baisse dramatique des effectifs. La forêt de Białowieża avait été plutôt préservée à travers les siècles, notamment c'était lié au fait qu'elle était précisément une réserve de chasse, de telle sorte que l'exploitation du bois y est minimale jusqu'au XXe siècle. Les choses changent beaucoup au moment de la Première Guerre mondiale, où on va avoir une exploitation forestière massive par les troupes allemandes, et puis également des prélèvements de bisons accrus pour satisfaire l'attrait de la chasse, évidemment très répandu chez les milieux militaires à cette époque. On tue le dernier bison à Białowieża en 1919, le dernier bison à l'état sauvage, dans un contexte très compliqué de la fin de la guerre, où on a aussi des pénuries alimentaires. Donc là, il y a la dimension de recherche de viande. On évoque l'extrait évoqué les 800 kilos que peut faire l'animal, qui explique cet élément. Et donc, on va avoir progressivement dans les années 20, 30, 40 et puis 50 des politiques de réintroduction à partir des populations issues de zoos européens. En 1922, on crée une société européenne pour la protection du bison. Et donc, il y a des formes de coopération internationale qui vont permettre à partir de 1952 de réintroduire le bison à Białowieża à partir de spécimens issus de parcs zoologiques.
Et donc, contrairement aux États-Unis, le bison a un moment totalement disparu de la forêt de Białowieża pour ensuite être réintroduit aujourd'hui. Jawad, d'ailleurs, le bison, il est aussi présent dans le folklore en Pologne notamment. Son image est utilisée par des marques de bière, des marques de vodka. Ça fait aussi partie de l'héritage de l'image du bison.
Oui, tout à fait. Il y a ce caractère iconique du bison dans la culture polonaise depuis déjà longtemps, mais qui, dans les années récentes, a comporté une dimension touristique. Par exemple, le parc de Białowieża est de plus en plus visité par des Polonais et puis également par des touristes étrangers dans le cadre d'une politique assez active pour revivifier le tourisme en Pologne. Et puis, on va s'appuyer aussi sur, des arguments marketing. L'utilisation de l'image du bison, en effet, pour des produits de grande consommation, accompagnés d'une iconographie, de spots publicitaires, etc.
Merci. Merci beaucoup, Jawad Daher. Votre article « Les usages identitaires de l'élan et du bison en Allemagne, en Pologne et à Kaliningrad » est paru dans la revue Trajectoire. Je profite aussi pour remercier Thomas Griot qui nous a accompagnés pour la première partie de cette émission consacrée au bison états-unien. Votre ouvrage « Après la Grande Guerre, comment les Amérindiens des États-Unis sont devenus patriotes » s'est paru aux éditions EHESS. Et tout de suite, on retrouve la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et Catherine, aujourd'hui, la crise politique et la démission du gouvernement Lecornu sont largement commentées chez nos voisins européens.
Le gouvernement de Sébastien Lecornu, le plus éphémère de la Ve République, titre La Vanguardia en Espagne, 14 heures d'existence. Cette brièveté a également marqué Le Télégraphe à Londres, mais aussi Il Fatto Quotidiano à Rome, dans un article intitulé « Chaos en France ». Le journal italien évoque les 836 minutes de durée du dernier gouvernement français, tandis que la Deutsche Welle en Allemagne s'inquiète, elle, de compter 5 premiers ministres en 2 ans pour Emmanuel Macron. Avec le gouvernement Lecornu mort-né, on touche le fond du trou, titre le quotidien belge Le Soir, qui se demande comment la France en est arrivée là et surtout comment elle peut s'en sortir. Pour la BBC, tout remonte à 2024, à la dissolution provoquée par Emmanuel Macron, inutile selon la Deutsche Welle. Elle n'a fait que provoquer un psychodrame selon le média international allemand, crispant un peu plus les Français, déjà divisés sur la question des retraites. tout aussi divisé, le Parlement actuel. Si bien que la France semble ingouvernable, s'inquiète la Vanguardia, et c'est presque devenu une nouvelle norme, selon la BBC. Retour à la case départ à Matignon, ou plutôt à la case crise politique dans laquelle la France s'enfonce.
Even by France's standards of late, it's extraordinary, another round of huge instability there.
Indeed, I mean it just gets worse and worse.
La situation ne fait qu'empirer, selon le correspondant de la BBC à Paris, alors qu'à Londres, le présentateur estime, lui, que même au regard des standards français ces derniers temps, la situation est incroyable. La France connaît, oui, une nouvelle période d'instabilité majeure. On ne s'attendait pas à ce que le gouvernement dure longtemps, confirme le journaliste de la BBC à Paris, mais il se dit tout de même surpris par sa brièveté. La démission de Sébastien Lecornu met en lumière la gravité donc de la crise politique en France, l'incapacité d'Emmanuel Macron à la gérer et l'irresponsabilité flagrante des partis, estime la Vanguardia. Le chef de l'État a pour l'instant écarté la piste de sa propre démission, rappelle le quotidien économique allemand Handelsblatt. Ses marges de manœuvre sont donc bien étroites. Il devra se remettre en quête d'un nouveau Premier ministre d'ici jeudi au plus tard, ou dissoudre l'Assemblée et convoquer de nouvelles élections. Mais quelque soit le camp du futur Premier ministre. Il ou elle sera rapidement confronté à une motion de censure, prévient Handelsblatt. Le président Macron est un canard boiteux à court d'options, résume le Times à Londres. La presse britannique particulièrement cinglante ce matin. Dans un article accompagné d'une photo peu flatteuse d'Emmanuel Macron, regard hébété, le Télégraphe dit assister à la lente agonie du président et se demande si la démission du gouvernement Lecornu n'est pas le coup de grâce.
Et la crise politique aggrave la situation économique de la France.
À quand un budget pour 2026, se demande la Vanguardia. À quand un gouvernement stable, se demandent aussi les marchés financiers, alors que la Bourse de Paris a terminé en baisse hier, que l'euro a reculé face au dollar et que la dette pèse de plus en plus sur la France, note le Financial Times, Handelsblatt, la BBC et la Deutsche Welle, pour qui il y a urgence à définir un cap politique clair.
Why can't they compromise? I mean, is it because they don't have a history of coalition government building, or is it because we've just got too many?
Pourquoi les politiques français n'arrivent pas à trouver un compromis? Interroge le journaliste de la Deutsche Welle en Allemagne. Est-ce parce qu'il y a trop d'ego surdimensionné? Les Français ne seront jamais comme les Allemands, capables de trouver un terrain d'entente sur certains points essentiels et capables d'accepter d'être en désaccord sur d'autres, répond la correspondante de la Deutsche Welle à Paris. Ce compromis, la coalition, n'est pas dans la culture politique nationale. Et la question d'une crise de régime devient de plus en plus aiguë. Selon la Deutsche Welle, la 5e République a été construite autour d'une figure, celle du général de Gaulle, analyse la radio internationale allemande. Dans un pays, ajoute le Télégraphe, où le RN cherche à se présenter comme le choix de la stabilité face au chaos macroniste, le journal suisse Blick estime, lui, qu'Emmanuel Macron, par son comportement et ses obsessions, est devenu de facto le meilleur allié de Marine Le Pen.
Et enfin, une question, Catherine. Pourquoi le Japon vit-il si mal son boom touristique ?
2025 s'annonce une année record selon Nikkei Asia. Le nombre de visiteurs étrangers a déjà quintuplé en 20 ans au Japon, avec 37 millions de touristes l'an dernier contre 6,5 millions en 2005. Une manne financière, souligne le Financial Times, mais pour certains Japonais, cela donne l'impression d'un surtourisme qui ne fait que les renvoyer au malaise économique relatif du pays. À Kyoto, qui abrite des sanctuaires et des temples inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'augmentation du nombre de touristes a provoqué une saturation des transports en commun, déplore le quotidien japonais Asahi Shimbun. Les bousculades incessantes dans des lieux populaires du pays, ainsi que l'indiscipline de certains touristes, le bruit, ont commencé à mettre à l'épreuve l'homo Tenashi, l'hospitalité des Japonais. À Tokyo, Kyoto et Osaka, les habitants s'indignent, par exemple, de la hausse des prix et des loyers inabordables. Les baby-boomers japonais qui arpentaient dans les années 80 les sites touristiques en grand nombre voient aujourd'hui l'arrivée chaque hiver de dizaines de milliers de jeunes Australiens profitant de vols low cost pour skier à moindre coût au Japon. Ils voient dans cela un sentiment d'humiliation économique.
Merci beaucoup Catherine Dutu. On vous retrouve demain pour la revue de presse dans la matinale. Et demain dans Culture Monde, suite de notre série consacrée aux animaux totems, nous nous demanderons comment la baleine est devenue le symbole de la protection des océans. Et dans un instant, les midis de culture par Marie Laborie.